Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en monde ce matin par Swad Boukorsa. Deuxième étude de cas de notre semaine sur les réponses nationales au coronavirus. Deuxième semaine de déconfinement pour Culture Monde. Après avoir évoqué hier les États-Unis de Donald Trump et avant d'étudier demain le Brésil de Jair Bolsonaro et puis jeudi l'Inde de Narendra Modi, intéressons-nous aujourd'hui au deuxième pays au monde le plus touché par l'épidémie, en tant qu'en termes de cas avérés, la Russie.
Chers amis,
75 ans sont passés après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Nous allons organiser le défilé militaire sur la Place Rouge et la marche du régiment immortel pour témoigner de ce lien historique. Ils ont combattu contre la mort pour la vie et nous alignons sur leur dignité. Nous sommes réunis dans cet espoir, dans ces aspirations, la responsabilité pour le présent et pour l'avenir. Nous savons et nous avons cette assurance que nous sommes invincibles quand nous sommes ensemble. Bonne fête, bon jour de la victoire. Hurra!
Dans son discours de commémoration du 9 mai 1945, jour de fierté nationale en Russie, le président Vladimir Poutine s'est voulu fédérateur, déterminé et fidèle à l'image d'une puissance insubmersible, souvent frappée par l'histoire, mais jamais vaincue. Difficile pourtant de faire comme si de rien n'était. Alors que la cérémonie prévue pour être grandiose en ce 75e anniversaire de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie n'a été maintenue qu'à minima, sans public, dans un pays durement touché par le coronavirus. En effet, alors que l'épidémie a longtemps été considérée comme sous contrôle en Russie, elle est désormais endémique et nombre d'observateurs mettent en doute les statistiques officielles, assez largement sous-estimé par un pouvoir qui craint les conséquences économiques de l'arrêt des activités dans un pays déjà durement touché par la chute des prix du pétrole. Un contexte risqué donc pour Vladimir Poutine qui, il y a quelques semaines encore, a validé le principe d'une réforme constitutionnelle lui permettant de se succéder à lui-même à l'issue de son mandat en 2024. Alors l'épidémie de Covid-19 menace-t-elle les plans de Vladimir Poutine ? Ou permet-elle au contraire de souder le pays derrière lui ? Comment le Kremlin s'est-il attaqué au coronavirus et comment la population a-t-elle réagi à ces mesures ? L'économie russe est-elle en mesure d'encaisser le double choc constitué par la chute des prix du pétrole et le confinement ? Pour évoquer toutes ces questions et bien d'autres, on a invité ce matin d'abord Clémentine Fauconnier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Clémentine Fauconnier. Vous êtes enseignante à l'Université Paris 1 Sorbonne et chercheuse associée au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Avec nous également, depuis Moscou, Benoît Vidkin. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes journaliste et correspondant du Monde à Moscou. Et je vais commencer par vous, Benoît Vidkin, puisque vous êtes au plus près du terrain. Clémentine Fauconnier me pardonnera. Parce que quand on regarde les chiffres officiels provenant de la Russie, alors je vais donner ceux qui avaient été donnés le 13 mai dernier par le ministère de la Santé. On parle de 2116 morts pour quelque 230 000 cas avérés. Depuis, ça a un peu augmenté. Mais voilà le chiffre pour le 13 mai. C'était il y a quelques jours. Et il y a beaucoup d'observateurs qui se montrent assez sceptiques quant à la réalité de ces chiffres officiels. Quelles sont les raisons de douter, Benoît Vidkin, en quoi le tableau que vous voyez, vous, sur place, a de quoi laisser sceptique ?
Vous avez raison de dire que les chiffres n'ont pas tellement changé. Ils ont augmenté, mais la proportion reste la même, c'est-à-dire un taux de mortalité qui est effectivement très bas, à peu près, qui reste en dessous de 1%. Aujourd'hui, on est plus dans un ordre de grandeur 300 000 cas pour 3 000 morts. Alors écoutons quand même le discours officiel. Avant d'expliquer les raisons d'en douter, il y a plusieurs choses qui sont dites par les autorités. La première d'entre elles et la principale étant un recours massif, et qui est réellement massif, aux tests. de l'ordre de plus de 6 millions depuis le début de la crise. Alors eux aussi font l'objet d'un certain nombre de doutes, notamment leur qualité, puisque le maire de Moscou lui-même reconnaissait que la moitié d'entre eux donnaient des résultats trompeurs. Mais voilà pour le point de départ. Ensuite, il n'y a pas tellement la suspicion d'une volonté de Moscou d'atténuer le nombre de morts. Ça peut exister, mais on n'a pas l'impression de voir un plan organisé. Ce qui se distingue plutôt, c'est d'abord une façon de compter différente, tout simplement, qui permet d'afficher un taux de mortalité plus bas, à savoir les Russes pratiquent beaucoup d'autopsies sur les morts à l'hôpital, et ils distinguent de façon très stricte les morts du coronavirus des morts avec le coronavirus. C'est une première explication. Ensuite, l'autre explication est qui s'additionne en réalité, c'est que dans les régions, il semble bien quand même y avoir une volonté des pouvoirs locaux sur lesquels beaucoup de responsabilité a été mise d'atténuer, de donner des résultats positifs à Moscou, des résultats qui soient appréciés. On parle de technocrates dont l'ambition numéro un est de ne pas contrarier le centre.
Oui, et puis par ailleurs, il faut ajouter, Benoît Vidkin, que la Russie est loin d'être le seul pays où les chiffres sont remis en cause. C'est le cas en réalité à peu près partout. Mais en tout cas, dites-vous, il n'y a pas d'intentionnalité. En revanche, Clémentine Fauconnier, ce qui apparaît, c'est que ces critiques qui émergent ça et là en Russie, ça pose problème au pouvoir. On l'a vu notamment avec cette porte-parole des soignants, le docteur Anastasia Vassilieva, qui dénonçait les manquements du pouvoir qui, disait-elle, ne permet pas aux médecins de faire leur travail pour lutter contre cette épidémie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de soignants qui travaillent sans gants, sans lunettes et même sans masque parfois. Et résultat, eh bien, elle a été arrêtée par la police. Elle a passé à peu près une vingtaine d'heures au poste de police avant d'être libérée. Donc on voit bien que le pouvoir tient à garder quand même le contrôle sur l'information diffusée autour de cette crise sanitaire. Soit pas d'intentionnalité de masquer les choses, mais il faut garder le contrôle de l'information, Clémentine Fauconnier.
Oui, complètement. Et vous avez bien fait de citer cet événement. Il y a une certaine visibilité, en tout cas, de cette volonté de contrôle et qui s'est notamment manifestée par le fait que le gouvernement russe a fait adopter très rapidement, dès le début du confinement, une loi qui sanctionnait toute personne qui propagerait des fausses nouvelles, des fake news, les fameuses fake news, sur la maladie. Et avec une conception très extensive, en fait, de ce qui était considéré comme une fake news, ce qui pouvait s'étendre jusqu'au fait de remettre en cause, par exemple, les statistiques officielles. Alors, il y a eu des répliques hein, de la part de journalistes de Novaya Gazeta, par exemple, qui publient des estimations alternatives, etc. Mais on voit en tout cas qu'il y a une volonté assez musclée de la part du pouvoir de contrôler les informations, sachant qu'il y a des enjeux. Alors on ne sait plus vraiment s'ils sont à court ou à moyen terme, mais il y avait une actualité politique importante en Russie avec donc ce projet de vote sur les modifications apportées à la Constitution. Et là, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a la popularité de Vladimir Poutine a quand même tendance à descendre. Elle reste élevée dans l'absolu, mais par rapport aux chiffres habituels de sa popularité en tant que président, elles sont vraiment basses. Ouais. Et donc du coup, évidemment, il pourrait y avoir des conséquences politiques assez immédiate.
On y reviendra évidemment, Clémentine Fauconnier, sur ses conséquences politiques et cette popularité qui effectivement a beaucoup baissé. Benoît Vidkin, une fois encore, je vais profiter du fait que vous êtes sur place et que donc vous avez une vision assez directe de la situation, parce qu'on parlait hier des États-Unis et du fait que évidemment cette crise sanitaire elle allait engendrer une crise sociale très forte, parce que les millions d'Américains qui ont perdu leur emploi ont aussi perdu pour beaucoup en même temps leur assurance maladie et donc leur capacité à se faire soigner. Évidemment, les modèles ne sont pas comparables aux États-Unis et en Russie. Peut-être qu'en Russie, c'est beaucoup plus protecteur en réalité. Mais est-ce qu'on a aussi des raisons de s'inquiéter sur une crise sociale à venir du côté de la Russie avec ce Covid ?
Oui, et même la crise, elle est déjà là. Ce que Clémentine évoquait sur la popularité de Vladimir Poutine, c'est en grande partie dû à la situation économique, couplée à une sensation basée sur des choses très objectives, hein, mais que le pouvoir n'en fait pas assez pour soutenir l'économie. La comparaison avec les États-Unis, elle est intéressante parce qu'elle est, à mon sens, juste à un titre. Et fausse à un autre, c'est-à-dire que la Russie est un pays où il y a extrêmement peu de filets de sécurité sociale, encore moins qu'aux États-Unis. D'abord du fait de la structure de l'économie, on a environ les deux tiers des Russes qui n'ont pas d'économie.
qui n'ont donc rien pour voir venir. Ensuite, les allocations chômage, elles ont été un peu musclées là, à la faveur de la crise, mais ça reste de l'ordre du quasi symbolique. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à une situation de crise inattendue, on peut se retrouver avec rien. Et c'est le cas de vraiment, vraiment de nombreux Russes. On n'a pas encore de chiffres, mais les chiffres qui apparaissent s'agissant du chômage, des fermetures d'entreprises, laissent présager quelque chose de grave. Ensuite, la différence avec les États-Unis, c'est que je me suis un peu perdu, Florian.
Il y a aucun problème, Benoît Vitkin. C'est vrai qu'il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes sur l'état de l'économie russe. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Caroline Duffy. Et vous le disiez, il y a une difficulté du côté de l'épargne pour la population russe. Il y a par ailleurs des salaires qui ont diminué ces derniers mois, ces dernières années. Donc évidemment, on peut attendre une crise sociale produite par cette crise sanitaire. Clémentine Fauconnier, vous rejoignez Benoît Vitkin sur ce point, c'est-à-dire il faut s'attendre à une crise sociale dans les mois qui viennent et peut-être pourquoi pas des mobilisations importantes.
Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Benoît Vitkin. Et en plus, c'est très important parce que c'est un élément qu'on souligne en général assez moins sur la Russie. On se concentre beaucoup sur les aspects politiques, liberté, etc. Il y a aussi une vraie, la question sociale est absolument centrale. C'est-à-dire, à la fois, c'est un pays où il y a très peu de protection, finalement, comme l'a très bien dit Benoît Vitkin, et aussi où la question sociale est très mobilisatrice. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, on a déjà eu l'occasion d'en parler, hein, des mobilisations sur la régularité des élections, etc. Mais en fait, les très grandes mobilisation, je veux dire en termes de nombre de personnes mobilisées et aussi de profil social de personnes mobilisées qui va donc brasser très large des retraités ou des personnes qui sont en général peu politisées ou peu actives, en général c'est sur les questions sociales.
Vous faites référence aux grandes manifestations de 2018, de l'été 2018, où il y avait une très très grande mobilisation autour de la réforme des retraites.
Voilà. 2018, et il y a eu un précédent aussi important en 2005 aussi, où les retraités étaient massivement dans la rue. Ce qui pourrait faire vaciller un petit peu le système Poutine, c'est justement ces questions sociales, en fait. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment, ça peut être potentiellement, en tout cas, une petite bombe à retardement selon l'évolution de la situation.
Benoît Vitkin, je reprends à mon compte le commentaire de Clémentine Fauconnier tout à l'heure, qui parlait de la chute de la popularité de Poutine. Alors c'est vrai qu'elle reste encore importante. Elle était mesurée pour le mois d'avril à 59% par l'Institut Levada. Et c'était son plus bas historique. C'est une chute de 10 points par rapport à février dernier. Comment expliquer cette chute? Qu'est-ce que les citoyens russes finalement reprochent au président? Ce qui va nous permettre aussi d'évoquer les mesures qui ont été prises par Vladimir Poutine suite à cette crise. Benoît Vitkin.
Ce qui est intéressant, c'est que il lui reproche principalement ce qu'on a dit, le manque de soutien à l'économie. Poutine est apparu plusieurs fois à la télévision pour dire on arrête de travailler, mais les salaires sont payés. Or les salaires, c'est bien connu, le secteur public ou parapublic a beau être très important en Russie, une bonne partie des salaires sont payés par des employeurs qui n'ont pas l'argent pour le faire, tout simplement. Donc ça a créé évidemment une forme d'irritation. Le soutien à l'économie, c'est de l'ordre de 3,5% du PIB, donc beaucoup moins, à peu près trois fois moins que ce qui se fait en Europe occidentale. Et l'exaspération d'une partie de la population, alors à quel point, de quelle façon ça va se traduire, on n'en sait rien, il faut pas trop imaginer de choses, mais l'exaspération, elle tient aussi au positionnement politique de Poutine, qui a évidemment, on le sait, habitué sa population à prendre un positionnement de leader fort, qui ne craint pas la crise. Or, il donne l'impression, depuis le début, de craindre cette crise. Il a d'abord voulu l'écarter parce que, comme l'a dit Clémentine, il avait d'autres priorités. Et ensuite, il a eu une stratégie assez inhabituelle qui était de remettre beaucoup de, pas forcément de pouvoir, mais de responsabilité aux régions, de responsabilité politique. Or, les régions, depuis une vingtaine d'années, elles ont été totalement déshabillées. Et donc, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe de leur dire, désormais, c'est vous qui non seulement organisez le confinement, et ça, il y a un sens, puisque la situation peut varier très fortement d'une région à l'autre, mais c'est vous qui êtes responsable des grandes orientations. Est-ce qu'on va arrêter le confinement pour relancer, en gros, ce dilemme qui s'est posé partout, préservation de la santé via le confinement ou relance de l'économie. Il a placé la responsabilité du côté des régions. Et il semble que cette tactique assez simple, finalement, ne marche pas totalement, en tout cas dans l'opinion. On ne lui pardonne pas vraiment de s'effacer à ce moment-là.
C'est intéressant de voir réapparaître d'une certaine manière ce Poutine libéral, ce Poutine décentralisateur, ce qu'il n'est absolument plus depuis un certain temps. Clémentine Fauconnier, parce que c'est vrai que depuis le début de la crise, le Kremlin laisse beaucoup de marge de manœuvre aux régions pour organiser le confinement, pour organiser le déconfinement, et Vladimir Poutine n'est pas, en tout cas pour ce qui est des dernières années, réputé pour sa capacité à laisser le pouvoir à d'autres. J'allais dire, quand même, au contraire, il a une forte capacité à le centraliser, ce pouvoir. Comment vous interprétez-vous cette soudaine liberté offerte aux régions, Clémentine Fauconnier?
C'est un petit peu une grosse ficelle, mais dont personne n'est vraiment dupe. C'est-à-dire que, en effet, Poutine est très connu pour sa façon de gouverner de façon très centralisée, sauf quand il s'agit de faire porter la responsabilité d'événements qui pourraient susciter une impopularité. C'est pas la première fois. C'est-à-dire que aussi quand il y a eu le fameux problème écologique en 2010, si je me trompe pas, les incendies très importants en Russie et qui ont provoqué un brouillard pendant plusieurs jours et vraiment une situation sanitaire très compliquée, à nouveau, c'est les régions qui ont été pointées du doigt. Donc ça, je dirais que c'est un classique, quand il y a un problème, de désigner des responsables. Et donc, du coup, c'est une liberté qui, en fait, est bien plutôt le fait de faire porter une responsabilité dont personne ne voudrait à ceux qui, en plus, comme l'a dit Benoît Wittkin, n'ont pas vraiment la capacité à prendre des décisions, que réellement, d'un coup, une forme de gouvernance libérale et décentralisatrice. En effet, c'est plutôt pas vraiment sa caractéristique principale. Après, par ailleurs, pour contrebalancer un tout petit peu, ça pourrait en partie être justifié aussi quand même par l'immensité du territoire russe et le fait que le Covid n'a pas du tout touché de la même façon selon les régions.
C'est d'ailleurs ce qu'il avait précisé durant sa vidéoconférence avec les responsables des régions, et vous faisiez référence à 2010. C'est aussi, probablement pas un hasard, un moment où la contestation sociale autour justement de ces incendies avait été très très forte. Benoît Wittkin, revenons peut-être quelques semaines en arrière, au moment où le Covid n'était pas encore une actualité forte du côté de la Russie, et où la Douma avait adopté un amendement constitutionnel qui permettait à Poutine de se présenter pour deux nouveaux mandats, alors que la Constitution, normalement, devrait l'obliger à se retirer à la fin de celui-ci qui arrive à son terme en 2024. On en avait un petit peu parlé à ce même micro. C'est un référendum qui aurait dû valider cette manœuvre politique après 20 ans de pouvoir quand même du côté de Vladimir Poutine. Sauf que la Covid a perturbé un tout petit peu le calendrier et que ce référendum, cette consultation n'a pas eu lieu. Est-ce qu'il faut comprendre, Benoît Wittkin, que cette opération visant à maintenir Poutine au pouvoir est menacée aujourd'hui ?
C'est aller un peu vite. Et d'abord, c'est aussi aller un peu vite sur l'objectif de l'opération. Les amendements constitutionnels, alors la Douma n'a joué le rôle de figurante là-dessus, faut pas se méprendre, mais ils vont dans un certain nombre de directions qui visent à consolider la base institutionnelle, mais aussi idéologique de Poutine, du poutinisme même en réalité. Pour ce qui est de rester au pouvoir, ce que je me permettais de vous reprendre en disant c'est aller un peu vite, c'est pas forcément pour rester au pouvoir, c'est pour au minimum, peut-être que ce sera in fine resté au pouvoir, mais c'est au minimum se recréer une base de légitimité forte pour gérer une éventuelle transition. Puisque gérer une transition dans un pays où tout repose sur un homme, c'est compliqué, alors encore plus si son autorité est affaiblie. Il y a au minimum un contretemps très sérieux, c'est-à-dire que ce vote plus que ce référendum, parce que légalement c'est compliqué, on est dans le cadre d'une consultation en réalité. Cette consultation devait intervenir le 22 avril. On l'a dit, c'est sans doute ce qui explique la lenteur de réaction de la Russie. Alors qui a pris certaines mesures, notamment en termes de protection des frontières, mais pour le reste, effectivement, la ligne était plutôt incarnée par les mots très clairs et directs de Poutine, disant « tout est sous contrôle ». Il y avait a priori à cette époque-là, jusqu'à la mi-avril, encore un espoir de pouvoir tenir ce vote jugé vital. Tout ça, c'est donc au minimum un contretemps. Est-ce que tout le projet est menacé? Sans doute pas. C'est-à-dire et la popularité, et la crise sociale, et la grogne politique dans le pays vont sans doute enfler. De là à dire que les projets du pouvoir deviendraient minoritaires, il y a un pas. Et ensuite, même en considérant que l'état réel de l'opinion, le Kremlin disons-le poliment, un savoir-faire dans la conduite des scrutins qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir.
Mais en tout cas, ce que j'entends dans vos propos, Benoît Wittkin, c'est que l'opération de Poutine ne vise pas forcément à se maintenir au-delà de 2024, mais d'organiser la transition. Je comprends bien.
En fait, on ne le sait pas. C'est-à-dire que à peu près personne n'avait prévu ce mouvement parce que Poutine avait plutôt fait la démonstration qu'il était au moins dans les formes un très grand légitimiste jusque-là, et il avait pas cessé de dire que jamais il ferait un mouvement comme ça, que jamais il toucherait à la Constitution, qu'il avait aucunement l'envie de rester. Donc il a pris tout le monde de court. L'objectif peut être de rester, c'est-à-dire, alors là pareil, on est dans l'ordre du de l'inconnu, de l'imagination, du fantasme. Est-ce que c'est compliqué pour lui de partir, tout comme c'est compliqué d'organiser une transition sur une base institutionnelle qui a été laminée par son pouvoir personnel. Donc en réalité, on ne le sait pas.
Clémentine Fauconnier, quelles sont vos hypothèses sur cette question-là, sur cette question de la transition, d'un maintien éventuel de Poutine? Comment, alors évidemment, c'est toujours compliqué de se mettre dans la tête de Poutine, mais enfin, essayons, Clémentine Fauconnier.
Alors, ce qui est sûr, c'est que avec ce mouvement qui était un petit peu inattendu, finalement, de remettre à zéro les compteurs pour les mandats présidentiels, ça ouvre une possibilité supplémentaire à Vladimir Poutine, soit éventuellement pour se maintenir encore jusqu'en 2036, soit éventuellement, en effet, c'est-à-dire pour pouvoir éventuellement bien choisir le moment où il passera la main. Voilà, c'est-à-dire à la fois le moment qui sera propice du point de vue du contexte politique, et puis selon aussi la personne qu'il trouve finalement pour lui succéder. C'est un scénario qu'on voit assez souvent d'ailleurs se dérouler dans les régions pour les gouverneurs, c'est-à-dire que bien souvent le choix des personnes ou les passages de témoins d'un gouverneur à un autre se font en dehors des échéances électorales. Et c'est-à-dire que souvent on a un gouverneur qui est en poste, qui démissionne à l'avance, et donc, enfin, qui démissionne avant la fin de son mandat, je veux dire, et donc du coup, à ce moment-là, des élections anticipées sont organisées, ce qui prend un petit peu tout le monde de court, y compris l'opposition, et qui permet surtout à l'heureux successeur d'être déjà gouverneur par intérim et de se faire élire beaucoup plus facilement. Et donc du coup, de ce point de vue-là, voilà, il y a une plus grande marge de manœuvre dans le moment qui sera choisi. Après, je précise aussi que voilà, donc c'est pas un référendum.
Alors, attendez, Clémentine Fauconnier, parce que ce que vous venez de nous décrire, évidemment, si je le traduis au niveau de la fédération. Il y a un Premier ministre, à savoir Medvedev, qui a démissionné il y a quelques semaines, c'était en janvier dernier. Il a été remplacé par un illustre inconnu, même en Russie, on ne connaissait pas beaucoup, Mikhail Mishustin. Est-ce qu'on a là l'opération que vous décriviez, c'est-à-dire la mise sur orbite, on prépare la mise sur orbite de Mishustin pour la transition, pour la suite? Ou est-ce que là, je vais un peu vite en besogne aussi?
Alors, on est tous d'accord pour dire qu'on est dans le domaine de la politique fiction et de l'imaginaire et que donc on est amené qu'à faire des hypothèses. A priori, il y avait quand même un relatif consensus pour dire que sans doute ce serait pas Mishustin. Que Mishustin était plutôt l'équivalent du premier ministre qui avait été choisi en 2007, juste avant le switch Poutine-Medvedev. Enfin, juste avant, justement, que Medvedev prenne la place présidentielle de Vladimir Poutine et que Poutine devienne premier ministre. Et juste avant ça, justement, on avait nommé un premier ministre technique, un petit peu avec un profil très proche de celui de Mishustin. Donc en fait, l'hypothèse principale, c'était que Mishustin jouait ce rôle-là et que le successeur, si tant est qu'il ait déjà été choisi, de toute façon, n'était pas encore tout à fait visible.
Benoît Vidkin, l'idée selon laquelle Mishustin serait là pour préparer l'arrivée d'un autre. Mishustin, qui, je le rappelle, a été touché par le Covid et donc gouverne depuis son lieu de confinement, Benoît Vidkin.
Ben, il gouverne même à nouveau formellement depuis il y a quelques minutes, parce que le Poutine n'avait pas signé son acte de remise en fonction. C'est désormais chose faite, mais c'est assez emblématique parce que certains politologues s'interrogeaient sur son retour. C'est-à-dire disaient, formellement ça s'est fait de façon bizarre, la nomination d'un intérimaire qui s'appelle Bielousov, et est-ce que ça ne veut pas dire l'éviction de Mishustin? La personnalité de Mishustin, elle n'est pas vitale ici. En revanche, là où c'est intéressant et emblématique de ce qui se passe, y compris dans les régions, c'est que c'est effectivement ce qu'on appelle un premier ministre technique, mais que dans une période où, on l'a dit, Poutine se met plutôt en retrait et laisse la responsabilité politique à d'autres, cette personnalité politique dont on aurait besoin et pas technique. C'est la même chose au niveau des gouverneurs, c'est-à-dire que les pouvoirs des régions ont formellement pas forcément été rognés. Ils ont diminué, leur légitimité, la légitimité élective des gouverneurs a diminué, mais leurs pouvoirs sont à peu près là. En revanche, le mouvement qui a été fait, surtout, c'est que les technocrates ont remplacé des politiques. Les technocrates qui ne sont pas très friands de prendre des responsabilités, qui veulent plaire au centre, et donc Poutine se retire. pour laisser la place formellement, vu de l'opinion, vu de en termes de purement de prise de décision, pour laisser la place à qui? À qui? C'est là où ça devient problématique, et quelqu'un comme Michoustine illustre bien.
Et en même temps, cette idée selon laquelle le futur remplaçant serait là que pour un moment. En tout cas, ce que vous dites me fait penser à l'arrivée de Poutine au pouvoir au début des années 2000, où personne n'imaginait qu'il resterait deux décennies et même peut-être plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que Michoustine est un illustre inconnu et qu'il n'a pas forcément le profil qu'on attend qu'il ne pourrait pas créer la surprise.
Absolument, absolument. Le critère sera sans doute autre. Les critères même, et ce sera sans doute en grande partie une question d'équilibre, ouais, entre les différentes forces, on va dire, plutôt que les différents clans qui gravitent autour du pouvoir, qui sont nombreux, qui ont des intérêts relativement divergents. Et c'est aussi ce qui a été compris dans cette réforme de la Constitution que Poutine a imposée. C'est pas uniquement sa capacité à rester éventuellement au pouvoir, c'est aussi sa capacité à consolider ce qu'il considère être les acquis. Pour commencer, c'est un pouvoir présidentiel. Il a lancé cette réforme en disant on va renforcer le rôle du Parlement, et il a fait l'inverse. Il a encore renforcé le rôle à venir, le rôle actuel donc de son propre pouvoir, mais aussi celui de son éventuel successeur. Donc il renforce les bases institutionnelles et il renforce les bases idéologiques, tout ce qu'il considère comme étant les acquis les plus importants de sa politique, il les grave dans le marbre de la Constitution. C'est des choses très conservatrices sur le plan ce qu'on appelle les valeurs, y compris l'interdiction du mariage homosexuel, jusqu'à quelque chose comme l'annexion de la Crimée, qui est gravé dans le marbre constitutionnel. Donc le critère principal sera à la fois un critère d'équilibre et d'acceptabilité par les différentes forces, mais aussi quand même celui d'une continuité au minimum idéologique qui doit être garantie.
Je voudrais vous entendre, Clémentine Fauconnier, sur justement cet équilibre des différentes forces. Peut-être faut-il justement les introduire, parce que on fait de la politique fiction, oui et non. En tout cas, on n'est pas les seuls à en faire, et y compris en Russie, on en fait. Il y a quelques jours, il y a eu un emballement médiatique assez important suite au fait que Poutine a serré la main d'un médecin qui avait, lui, contracté le virus. Donc, c'est quelque chose dont on parle, c'est-à-dire l'hypothèse d'un Poutine qui disparaîtrait plus tôt qu'on l'imagine, une disparition un peu précipitée, n'est pas complètement folle. En tout cas, c'est des choses qu'on discute en Russie. Sur cet équilibre des forces, justement, qui permettrait de mettre en place une personnalité de transition. Clémentine Fauconnier.
Oui, alors il y a pas beaucoup par rapport mettons 2007-2008, il y a moins de noms, c'est-à-dire que en 2007, à nouveau j'y reviens parce que c'est quand même les grandes références, les grandes échéances où il y a eu ce type de changement au sommet du pouvoir, le nom de Medvedev, il circulait de façon il y avait deux noms qui circulaient à l'époque, c'était Medvedev et Ivanov qu'on entendait partout et ça faisait au moins un an ou deux que sauf surprise, il y avait un accord sur l'idée que ce serait sans doute l'un ou l'autre éventuellement qui serait amené à succéder à Vladimir Poutine à l'échéance de 2008. Là, la situation, elle me paraît un petit peu différente, dans le sens où le pouvoir, finalement, a continué au fil des années, pas forcément de façon volontaire, mais un petit peu par la force des choses, à se personnaliser très fortement et donc à se centrer sur Vladimir Poutine, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'équivalent de ces noms-là qui pourraient venir à l'esprit et qui permettraient éventuellement d'envisager une transition. En revanche, là où on pourrait plutôt donc à nouveau référer à la période 99-2000, ce qu'on pourrait imaginer, c'est plutôt justement quelqu'un, un illustre inconnu évidemment. C'est l'émergence sur la scène politique de quelqu'un sans doute de beaucoup plus jeune qui arriverait sans doute quand même vu le poids qu'ils ont, qui aurait quand même possiblement des liens avec les institutions, enfin qui soit un petit peu comme Vladimir Poutine qui arrive à coaliser à la fois le bloc siloviki institution de force et puis aussi le bloc plus néolibéral des grands groupes et économiques et qui pourrait justement donc créer la surprise et s'imposer sur la scène politique aussi grâce à sa jeunesse et à son caractère un petit peu je dirais nouveau sur la scène politique russe.
Le bloc siloviki pour nos auditeurs c'est en très gros le camp des gens qui s'intéressent aux questions de sécurité, en très gros.
Hein, voilà, c'est les hommes en épaulette, c'est l'armée, les services secrets, etc.
Benoît Vidkin, vous évoquiez il y a quelques instants la question de la Crimée qui a été entérinée par la nouvelle Constitution. Au début des années 2010, Poutine avait déjà connu un déclin de sa popularité dont on parlait tout à l'heure. Et puis, précisément, ce coup de la Crimée, ce rattachement de la Crimée lui avait permis de retrouver des sommets. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu de la fragilisation du pouvoir, il pourrait nous refaire le coup, nous faire un autre coup de force qui lui réussit si bien ?
Aucune idée. La seule chose qui est sûre, c'est que il pourra rien trouver d'aussi puissant. D'abord parce que la ficelle a déjà été utilisée, et ensuite parce que y a rien ne peut être aussi mobilisateur à un coût aussi peu élevé. Alors à moins qu'il fasse une gigantesque guerre pour conquérir l'Ukraine, ce qui là encore, enfin en termes d'opinion, en termes de plein de choses, serait compliqué. On le voit déjà avec le Donbass. Mais donc voilà, donc on voit pas quel terrain pourrait être aussi fort. Le thème de la Biélorussie est très très présent dans le débat russe.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en dit?
Pour d'autres raisons, c'est que ça a été une des... Alors c'est un serpent de mer, l'union des deux États qui sur le papier existe. Il y a un accord qui est censé mener à une intégration toujours plus poussée entre les deux, et à chaque fois un jeu du chat et de la souris où la Biélorussie et notamment son président Loukachenko résiste pour garder tout simplement son pouvoir et la souveraineté de son pays, résiste ou plutôt essaye de monnayer ça contre le soutien financier de la Russie. Et donc sur cette base-là, ça a fait partie des scénarios envisagés par les observateurs, mais sans doute par quelques personnes au moins au Kremlin, pour cette fameuse, pas forcément succession, mais parmi les solutions qui permettraient à Poutine de rester sur le devant de la scène, voire de rester le maître à bord. Celui de, il changerait de fonction en devenant le chef de ce nouvel État, en quelque sorte. Donc tout ça pour dire que les grands mouvements tectoniques, géopolitiques, y compris qui rebâtiraient la structure de l'État russe, qui en appelle à des références passées fortes dans l'opinion, parce que la Biélorussie, tout comme l'Ukraine, ça fait partie de ces territoires qu'une partie des Russes ont du mal à comprendre comme ne leur appartenant plus. Tout ça existe dans le débat. Ensuite, pour autant, voilà, l'idée d'un coup de force quelque part, on n'en sait rien, il y a pour l'instant rien qui le dit.
Ouais. Clémentine Fauconnier, un mot là-dessus avant de nous pencher plus en avant sur les questions économiques. On va accueillir dans un instant Caroline Dufy. Clémentine Fauconnier.
Oui, ça pourrait même être en partie contre-productif. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de la chute de popularité de Vladimir Poutine. En fait, cette popularité, elle a commencé à baisser très fortement à partir de 2018. C'est en 2018 qu'il a commencé à passer progressivement de 80 à 60 et quelques, et puis 59 aujourd'hui. Et cette baisse, elle a été, interprétée comme étant à la fois le résultat donc de toute la mobilisation contre la réforme des retraites, et aussi, je dirais, la fin de la bulle Crimée. C'est-à-dire que 2013 et quelques, la cote de popularité de Vladimir Poutine est assez faible. Elle est à 60, enfin faible, je dirais, par rapport à ses chiffres habituels. Et puis, il y a eu donc cet enthousiasme immense autour de la Crimée qui, comme l'a dit Benoît Vitkine, a quand même un statut très particulier dans l'histoire et la culture russe, et qui donc qui a fait que pendant quelques années, Vladimir Poutine et les dirigeants, mais Vladimir Poutine surtout, a réussi quand même à capitaliser sur cet événement et sur... en même temps, le retour de la Russie sur la scène internationale. Aujourd'hui, c'est en train de s'inverser. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis à peu près 2 ans. C'est-à-dire que quand on regarde de façon un peu détaillée les sondages d'opinion du Centre Levada, on voit que finalement, il y a une certaine fatigue sur cet investissement de la Russie à l'étranger, parce qu'il est maintenant conçu comme se faisant au détriment, justement, des politiques sociales, de la politique intérieure. Et donc, ce qui ferait qu'un investissement supplémentaire sur la scène internationale pourrait finalement accélérer le mécontentement de la population, si on parle vraiment en termes de légitimité et de politique intérieure.
On est avec vous, Clémentine Fauconnier, et vous, Benoît Vitkine, en direct de Moscou, dans cette émission consacrée à la Russie, dans une série consacrée aux sociétés face au virus. Hier, on parlait des États-Unis, nous parlerons de l'Inde également, mais aujourd'hui c'est la Russie et ça tousse au Kremlin. 11h33, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
À l'arrêt de la consommation liée au confinement s'ajoute pour l'économie russe l'impact de l'effondrement des prix du pétrole, dont elle est fortement tributaire. En résulte une crise de grande ampleur dont souffre particulièrement le secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises dont les fermetures se multiplient ces dernières semaines.
L'entrepreneur se retrouve otage de la situation. Il ne sait pas où prendre l'argent pour payer les salaires et il reçoit des milliers de lettres de ses employés qui s'unissent pour aller porter plainte.
À partir du 12 mai, dans la mesure du possible, il est nécessaire de créer les conditions pour la restauration des activités des entreprises dans les secteurs de base de l'économie, à savoir la construction, l'industrie, l'agriculture, les communications, l'énergie et les mines.
Voilà, on entendait Alexei Petropolsky, qui est un homme d'affaires qui est à la tête d'une chaîne de restaurants et d'hôtels et qui a dû notamment forcer 200 de ses salariés à démissionner. Un témoignage relayé par France 24 il y a quelques jours. Et puis Vladimir Poutine, évidemment, lors de sa visioconférence avec les gouverneurs des provinces. Quelles sont les conséquences du Covid sur l'économie russe? Bonjour Caroline Duffy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'EUP de Bordeaux, chercheur au Centre Émile Durkheim et une spécialiste de l'économie russe. D'abord, je vais vous faire faire peut-être un petit travail, Caroline Duffy, qui est important pour comprendre précisément ce qui a été fait du point de vue économique par Vladimir Poutine. Parce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises et il y en a d'autres qui sont à venir. Je crois que Poutine prépare un nouveau plan de relance pour le 1er juin prochain. Le bilan déjà des mesures qui ont été prises, et est-ce qu'on a une idée de ce qui est en préparation? On va commencer par ça, si vous le voulez bien, Caroline Duffy.
Une idée de ce qui est en préparation, c'est-à-dire que ces plans, comme l'ont dit vos interlocuteurs précédents, ont été quand même très très critiqués par des économistes libéraux, mais aussi par des gens qui sont assez proches du pouvoir et qui ont pensé et qui ont mis en évidence que c'était quand même assez faible compte tenu de l'impact du coronavirus sur l'activité et de cette double crise dont vous avez parlé. Donc, vraisemblablement une augmentation du soutien aux petites et moyennes entreprises. En tout cas, c'est véritablement ce qui était appelé considérée comme une mesure importante, et puis une augmentation du soutien global à l'économie qui reste, comme l'a dit Benoît Vitkin, qui reste assez mesurée si on compare par exemple aux pays occidentaux, évidemment pas les États-Unis, mais même aux pays européens. C'est un plan qui se limiter à quelques 2-3% du PIB, ce qui paraît assez faible compte tenu de l'impact anticipé des crises sur l'économie.
C'est d'autant plus important, Caroline Duffy, de soutenir les petites et moyennes entreprises qu'en Russie, il y a cette particularité qu'elles ne représentent déjà pas beaucoup par rapport à l'ensemble du PIB. C'est 20% du PIB, l'activité des petites et moyennes entreprises, contre plus de la moitié pour l'Europe, par exemple. Donc il y a évidemment une très grande importance à soutenir ce pan-là de l'économie.
Oui, d'autant plus qu'alors peut-être qu'effectivement les petites et moyennes entreprises ne sont pas si importantes que ça dans la structure de l'économie russe, qui est marquée par une tendance monopolistique assez forte et des grandes entreprises, des grands réseaux importants. Mais malgré tout, c'est aussi un secteur qui emploie une partie importante de la population, et 40% de la population, ça fait beaucoup, surtout que ce secteur est assez fragile, comme on l'a dit, qu'il a été peu soutenu jusque-là, et que c'est lui qui risque véritablement de payer beaucoup les fruits de la crise.
Venons-en, Caroline Duffy, au gros. Et le gros en Russie, c'est les hydrocarbures, puisque son économie, elle est très dépendante aux hydrocarbures. Je crois que c'est à peu près 2/3 des exportations. Et donc, évidemment, des rentrées d'argent très importantes. Si on fait un peu un bilan aujourd'hui, Caroline Duffy, dans quelle proportion cette baisse du prix du pétrole qu'on a déjà évoqué ici affaiblit aujourd'hui cette économie russe ?
Le second pan de la crise qui a commencé avant le coronavirus, effectivement a vu la baisse des prix du pétrole, alors au niveau international, et évidemment cette baisse a été accentuée encore plus au niveau international par le Covid. Donc c'est véritablement une problématique centrale pour l'État. C'est une problématique centrale pour le budget d'État, parce qu'on calcule même un budget, un excédent ou un déficit hors pétrole. C'est une problématique aussi parce que c'est véritablement ce qui permet d'équilibrer le budget, le fonctionnement de l'État et l'économie russe, et aussi de constituer des coussins pour l'avenir. Et ça, c'est une stratégie qui a été adoptée depuis longtemps par la Russie, de constituer des coussins pour faire face aux crises à venir. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est véritablement une conséquence qui est tout à fait majeure pour la Russie.
Et qu'est-ce qui reste précisément de ces coussins, Caroline Duffy? J'aime bien l'image, parce que ces coussins, en fait, c'est les fonds souverains qu'on a constitués pendant les belles années où le pétrole avait un prix très élevé. Et en effet, on avait des fonds souverains considérables. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Ah ben écoutez, ils sont justement, ils sont importants et c'est le tout le paradoxe de l'économie russe, c'est-à-dire que on a vu quand même une grande réticence du gouvernement à essayer de mobiliser ces fonds qui constituent à peu près 160 milliards de dollars aujourd'hui. Donc évidemment, c'est pas de l'argent disponible, mais malgré tout de ce point de vue-là, il y a des réserves substantielles. L'autre aspect, c'est le très faible endettement, si on compare aux pays avancés, c'est le très faible endettement et la très faible dette publique russe qui pourrait être utilisée, mobilisée pour atténuer véritablement les crises et les conséquences sociales de la crise.
Mais pourquoi on n'utilise pas ce coussin? Pourquoi on n'utilise pas, l'image du coussin, Caroline Dufay?
C'est justement la question, c'est-à-dire que de nombreux observateurs vraiment ont critiqué l'attentisme et les réticences du gouvernement russe à mobiliser ses réserves, sans doute que finalement les stratégies ne sont pas celles-là. L'orientation de l'économie russe est axée sur les grandes entreprises, sur les projets nationaux, sur les grands projets d'infrastructure et très peu dans le soutien, l'encouragement aux petites et moyennes entreprises, et c'est aussi ce qui est à l'origine du mécontentement de la population, parce que effectivement c'est un secteur qui est peu soutenu.
Vous restez avec nous, Caroline Dufay. Je voudrais faire intervenir nos deux invités qui sont avec nous déjà depuis une quarantaine de minutes, Benoît Vidkine et Clémentine Fauconnier. On va commencer par Moscou, Benoît Vidkine, sur effectivement on comprend pas très bien pourquoi Moscou n'utilise pas ses fonds souverains, parce que l'argent il est là, il est mobilisable.
Il y a plusieurs choses, sans doute. Là encore, on ne peut que deviner. Sans doute pour déjà qu'une partie supplémentaire de l'argent va être mobilisée, notamment parce qu'on a évoqué tous ces problèmes politiques. Il faut que l'intendance et que la logistique suivent, et donc qu'il n'y ait pas une crise sociale trop forte. Ensuite, il y a plusieurs choses. Il y a sans doute l'état d'esprit de des dirigeants de ce pays, d'une partie de la population. Je vais peut-être être caricatural, mais tant pis. Qui vit dans une mentalité un peu de fin du monde, c'est-à-dire que la catastrophe n'est jamais là et pire peut toujours arriver, et que c'est pas votre petite épidémie de Covid c'est pas tellement qui va nous faire peur, mais c'est qu'en gros pire peut arriver et donc on risque d'avoir besoin de cet argent. Ce sont des générations qui ont vécu de tels bouleversements à répétition que cette mentalité est bien ancrée, et surtout chez les grands, chez les gros, qui sont des gens habitués à se battre, à s'entre-dévorer et donc à disparaître occasionnellement. Et ensuite, il y a aussi cette idée que pas mal de gens m'ont dite, qui est là encore de l'ordre du ressenti, mais qui est que ces gens-là au pouvoir considèrent que cet argent, c'est pas réellement l'argent du peuple. Il doit être utilisé pour les choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est quoi? C'est la puissance. C'est la Syrie, c'est la Libye, c'est les armes, c'est la course aux armements. C'est plein de choses qui sont plus nécessaires que de soutenir le salon de coiffure d'Irkoutsk. Tout ça peut s'accumuler et peut jouer. Et ensuite, il y a évidemment tous les facteurs objectifs qu'on a tous évoqués, qui est ça peut encore être pire, notamment à cause des prix du pétrole. Le Poutine a pris le parti sous l'influence du patron de ce mastodonte du pétrole qui est Rosneft, de lancer cette guerre des prix avec l'Arabie Saoudite et par ricochet avec les États-Unis à un moment, au pire moment en quelque sorte. Est-ce que la décision était opportune, c'est compliqué à dire, mais au moment où ça a été fait, c'était encore pire. Cette crise pétrolière, la Russie est plutôt beaucoup mieux armée que d'autres pour l'affronter, justement grâce à ses réserves, grâce à la structure de son budget qui prévoit un prix du baril quand même bien inférieur, par exemple, à l'Arabie Saoudite. Mais que se passera-t-il si jamais on doit subventionner le baril pendant 2 ans? Et donc, là encore, on en revient à des arbitrages dans lesquels le salon de coiffure d'Irkoutsk est perdant.
Oui, cette mentalité de fin du monde que vous évoquiez, Benoît Vidkine, me fait penser à cette décision le mois dernier de la Russie de suspendre ses exportations d'un certain nombre de céréales, et notamment de blé. On a effectivement l'impression qu'il y a cette peur de manquer de l'essentiel, et notamment des denrées, raison pour laquelle on garde son blé chez soi. Clémentine Fauconnier, réaction? Clémentine Fauconnier, vous êtes là? Non, Clémentine Fauconnier n'est pas là. Caroline Dufy, peut-être un tout dernier mot sur ces conséquences économiques du Covid en Russie, avant de recevoir une nouvelle invitée. Caroline Dufy?
Oui, je rejoins un petit peu votre discussion du début, hein, c'est-à-dire que ce consensus social sur lequel s'est appuyé Poutine, c'est-à-dire en gros vous nous laissez l'économie donc aux dirigeants, la politique pardon, aux dirigeants et finalement en échange les revenus s'accroissent, la population a un bien-être supérieur. Évidemment, ce consensus-là qui fonctionne grâce à l'augmentation des prix du pétrole, il est très très sérieusement remis en cause actuellement et c'est véritablement ce qui fait la fragilité de la situation actuelle et on va voir comment finalement quelle est la sortie de crise, hein, est-ce que ce sera une sortie de crise en L, auquel cas ça, cette fragilité va s'accroître ou alors est-ce qu'il y, il y aura un rebond. Tout ça va dépendre de la durée de la crise. En fait.
Et cette fragilité que vous décrivez de l'économie russe, elle ne date pas du Covid, hein, elle est bien plus ancienne. Et quand on regarde la part du PIB russe dans le PIB mondial, aujourd'hui il est retombé au niveau qu'on avait à la fin des années 90. C'est dire la mauvaise passe qu'est en train de vivre l'économie russe. Merci beaucoup, Caroline Dufy, d'avoir été avec nous ce matin. On va poursuivre nos interrogations autour des conséquences du Covid et on va regarder ce qu'il en est du côté de la surveillance et de l'utilisation du numérique.
Il faut comprendre que Moscou est une ville immense. Une foule de gens vont et viennent chaque jour. Le marché public comprend clairement des mesures telles que la surveillance vidéo du centre-ville.
On n'y prête pas attention. Elle nous offre un sentiment de sécurité. Il n'y a pas si longtemps, les rues de Moscou étaient dangereuses le soir. Aujourd'hui, l'État s'occupe davantage de la sécurité des citoyens.
Voilà, extrait de ce documentaire Moscou Smart City, révolution sous surveillance de Masha Rodé, diffusé sur Arte en mars dernier. Caméras de surveillance équipées de systèmes de reconnaissance faciale, géolocalisation généralisée par l'entremise des opérateurs téléphoniques et puis autorisation de déplacement numérique recueillant les données personnelles des utilisateurs depuis le début de l'épidémie. La Russie mise beaucoup sur le contrôle de la population via les nouvelles technologies pour éviter les contaminations. Alors qu'est-ce que le Covid nous dit de cette conception du numérique par le pouvoir russe. Bonjour Françoise Dossé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS. En Russie, ça fait longtemps hein, qu'on utilise les technologies numériques. On l'entendait là avec ce documentaire. Par exemple, à Moscou, on utilise beaucoup la reconnaissance faciale depuis des années. Elle avait été largement utilisée, par exemple, lors du Mondial de foot en 2018. Est-ce que vous pensez que le Covid pourrait constituer une nouvelle étape dans la montée en puissance de cet outil numérique dans le contrôle social? Est-ce que le pouvoir va chercher à l'utiliser pour accroître encore cette surveillance sur les citoyens?
Alors c'est une inquiétude effectivement qui est surtout relayée par les associations de défense des libertés en ligne et puis certains opposants qui craignent en fait l'apparition d'un Big Brother numérique ou qui ont dénoncé un goulag numérique qui se mettait en place à travers effectivement l'usage des caméras à reconnaissance faciale, des autorisations numériques pour circuler sous la forme de QR code, ou même l'apparition la récente d'une application qui s'appelle Monitoring Social pour contrôler le respect de la quarantaine par les malades. Donc il y a une grande inquiétude hein, qui de la part d'un certain nombre d'associations et de citoyens sensibles à ces questions. Inquiétude qui est liée aussi à l'absence de cadre juridique en fait pour l'usage de ces technologies numériques et la crainte en fait c'est que ces usages perdurent après même la disparition de la maladie en fait puisqu'il n'y a pas en fait il n'y a pas d'état d'urgence sanitaire en Russie d'un point de vue juridique et donc on ne sait pas combien de temps vont durer ces mesures. Et puis, il y a aussi une grande inquiétude technique parce qu'en fait, il y a beaucoup de bugs dans ces applications de contrôle. Il y a eu des cas de personnes verbalisées alors qu'elles respectaient les règles de la quarantaine. Notamment, là, il y a eu des cas récemment avec les applications de monitoring social. Donc, tout ça est développé de façon un peu rapide, sans vraiment de contrôle. Il y a aussi une inquiétude portant sur la protection des données personnelles. Puisqu'il y a eu des fuites notamment de données, c'est-à-dire des données de passeport de citoyens russes qui se retrouvent quasiment en accès direct sur Internet.
Quand vous dites que les choses ne sont pas encadrées, il y a quand même des lois qui encadrent tout ça. Par exemple, du côté de Moscou, il y a, comme chez nous, la nécessité, alors plus maintenant, mais il y a eu la nécessité de remplir des formulaires numériques avant de se déplacer. Est-ce que ces informations-là, elles ont été recueillies sans aucun cadre légal? Il y a quand même une loi qui organise la collecte et la gestion de ces informations numériques.
Alors, il y a des cadres légaux, mais qui laissent des espaces en fait d'interprétation et d'arbitraire. Par exemple, sur la question des caméras à reconnaissance faciale, est-ce que la reconnaissance faciale relève des données personnelles? Par exemple, est-ce que ça tombe sous le coup de la loi sur le respect de la protection des données personnelles ou pas? Donc, même les avocats sont gênés sur certains types de dispositions et ont du mal à défendre en fait les personnes face notamment à l'usage des caméras à reconnaissance faciale, par exemple.
La question de l'acceptation de la population de ce contrôle-là, vous entendiez tout à l'heure dans le documentaire, c'est Moscovite qui avait l'air de parfaitement s'accommoder de cette présence très importante de caméras à Moscou. Est-ce que les choses pourraient changer avec la Covid, parce que le 1er avril dernier, les autorités ont essayé de déployer une application de surveillance des malades et il se trouve qu'elle a été assez rapidement retirée, et notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Alors, il y a évidemment les ONG qui se mobilisent énormément, mais visiblement, il y a une frange, en tout cas, de la société qui n'a pas l'air d'apprécier franchement ce contrôle-là. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une augmentation de la mobilisation autour de ces thèmes qui, jusqu'ici, ne sont pas des thèmes qui mobilisent beaucoup?
Alors, ce sont des thèmes qui mobilisent sur certaines questions qui sont considérées comme très importantes. Je pense notamment aux mobilisations qui ont pu avoir lieu il y a 2 ans, après le blocage de l'application Telegram, par exemple, qui est une application très populaire en Russie. Et le blocage de l'application a donné lieu à des manifestations, notamment à Moscou. Donc, il y a quand même une sensibilité sur certains aspects des libertés numériques, même si cela s'accompagne aussi d'une grande, au fond, technophilie, c'est-à-dire un grand attrait pour tous ces nouveaux appareils, modes de communication, etc., ce qui était aussi un peu caractéristique du passage de Medvedev, en fait, à la présidence russe, avec l'accent mis sur les usages du numérique pour à la fois pour gouverner le pays, puis pour développer l'économie du pays. Donc, il y a cette oscillation entre une grande fascination pour le numérique et en même temps une prise de conscience, alors qui n'est pas partagée par tout le monde, mais par certains citoyens et par les membres des associations, une prise de conscience en fait des risques aussi que cela peut porter. Alors il faut aussi rappeler que le contexte numérique en Russie est spécifique par la cohabitation de grands acteurs russes et des acteurs internationaux actuellement dans le numérique russe, puisqu'on a à la fois Google, Facebook, Twitter qui ont déployé leurs applications en Russie, mais aussi des produits typiquement russes liés notamment à Yandex, qui est l'équivalent du Google russe, ou le réseau social Vkontakte. Et donc il y a aussi une habileté des utilisateurs à naviguer d'une application à l'autre en fonction de ses objectifs. Et comme on sait quand même généralement que le réseau social Vkontakte est assez contrôlé, on peut l'utiliser pour des choses un petit peu anodines, je dirais, mais quand on veut parler politique, par exemple, on ira plutôt sur Facebook ou sur Telegram. Donc il y a aussi ces savoir-faire, au fond, à naviguer dans cet espace numérique dont on sait qu'il est quand même sous contrôle.
Ce savoir-faire, visiblement, il est très important du côté de la Russie, en particulier s'agissant de la reconnaissance faciale. On dit que la Russie, en tout cas, c'est ce que j'ai lu en préparant cette émission. Il y a beaucoup d'observateurs qui s'accordent pour dire que la Russie dispose des meilleurs algorithmes de reconnaissance faciale au monde. Est-ce que la Russie va devenir demain le principal pourvoyeur de technologies de contrôle social?
Alors la Russie, en fait, est un peu en compétition avec la Chine, puisque l'autre grand acteur dans ce secteur, sont les techniques venues de Chine. Et on voit cette concurrence notamment dans l'ancien espace soviétique, dans les anciennes républiques d'Union soviétique, où les opérateurs chinois et les opérateurs russes sont en concurrence pour équiper les grandes capitales des anciennes républiques. Donc on voit bien que la Russie, au fond, se place dans cette concurrence avec la Chine.
Et tire son épingle du jeu, parce que je lisais par exemple hier qu'une société qui s'appelle Entech Lab a réussi à remporter des appels d'offres pour la Chine. C'est dire s'ils sont en position de force.
Oui, il y a une compétition. compétences techniques et industrielles qui est en train de se développer, avec aussi, on le sait, une école de programmation et des formations d'informaticiens qui sont de très haut niveau. Et puis, ces grands acteurs comme Yandex aussi, qui ont un rôle dans la formation de cet environnement technique très avancé. C'est-à-dire que ce qu'a réalisé le moteur de recherche Yandex et surtout le déploiement de tous les services qui vont avec, c'est aussi en fait la formation de tout un réseau de spécialistes de l'internet et de l'informatique qui est extrêmement actif et efficace effectivement.
Peut-être toute dernière question, Françoise Dossé, est-ce qu'il y a aujourd'hui des indications, des preuves très claires, très concrètes de l'utilisation de ces technologies pour museler l'opposition? Je parle depuis le Covid et ce qui s'ensuit.
Alors, ce qui est un peu compliqué dans la situation actuelle, c'est que cette volonté de surveiller par le numérique, elle est un peu désorganisée et très arbitraire. Elle est très variable aussi suivant la situation géographique, hein, puisque ce dont on parle en général, c'est de la situation à Moscou, alors que dans les régions, les situations sont extrêmement hétérogènes. Donc il y a une forme aussi d'asymétrie par rapport au numérique qui fait que tous les citoyens ne sont pas dans la même position face au numérique.
Y compris, à l'intérieur des villes, parce qu'on parlait de Moscou. Il y a à Moscou, vous me confirmerez, des endroits où effectivement vous êtes très surveillés, où il y a énormément de caméras et des quartiers, en général plutôt un peu plus huppés, où vous pouvez échapper à cette surveillance numérique.
Tout à fait. Il y a des recherches qui ont été faites qui ont montré en fait que les caméras de surveillance sont installées prioritairement dans les quartiers populaires et moins dans les quartiers centraux, justement les quartiers les plus favorisés. Donc la surveillance s'opère essentiellement à l'encontre, je dirais, des classes populaires. Mmh. Ensuite, en termes de contrôle de l'opposition politique, en fait, là aussi il y a une double réalité. D'une part, effectivement, un accroissement des difficultés pour les opposants à se faire entendre dans ce contexte de pandémie qui, en fait, empêche aussi toutes les formes de rassemblement, etc., donc qui est très oppressif. Mais il y a eu des usages très inventifs, en fait, du numérique par les protestataires qui ont réussi à mettre en place des manifestations virtuelles en détournant, en fait, les applications de cartographie, notamment de Yandex, et en organisant, en fait, des manifestations grâce à ces applications, en se géolocalisant et en mettant des textes avec leurs critiques et leurs revendications. Donc on a à la fois effectivement une oppression plus grande et en même temps ces usages assez inventifs, à la fois pour faire de la critique et aussi pour lancer des applications de solidarité pour aider les plus faibles ou les plus fragiles face à la crise.
Mais pas de manifestation physique, Benoît Vidkin, vous qui êtes à Moscou, ce sera le mot de la fin en guise de conclusion, pas de manifestation physique, on se concentre de se mobiliser sur les réseaux.
Oui. Il y a eu à Moscou, elles sont interdites depuis assez longtemps, depuis le début de la crise, les rassemblements de plus de, si je ne me trompe pas, enfin au début c'était 5000 personnes, mais ça n'est même plus opérant puisque désormais il y a interdiction de sortir de chez soi sans bonne raison. Il y a eu des manifestations physiques dans quelques régions, notamment dans le sud, dans les contreforts du Caucase, de gens pareils hein, sur ces thèmes économiques principalement. Mais non, les manifestations en Russie sont la plupart du temps modestes, donc en ce moment-là, l'heure n'est pas du tout à la manifestation.
Бывает так, метут метели, и мрачен ты на вид. Что-то радостней капели в тебе звенит.
Merci beaucoup à nos invités. Françoise Dossé qui était avec nous à l'instant par téléphone, qui est notamment auteur de cet ouvrage « Être opposant dans la Russie » de Vladimir Poutine, aux éditions Le Bordelot. Un grand merci à nos deux invités, Clémentine Fauconnier, je rappellerai vous concernant entre le marteau et l'enclume. Un grand merci également à Benoît Vidkin qui est avec nous en direct de Moscou. Et je rappelle aux auditeurs, Benoît Vidkin, que vous venez de signer un polar qui se déroule dans l'est de l'Ukraine. Ça s'appelle Donbass, tout simplement du nom évidemment de cette région de l'est de l'Ukraine, qui est paru aux éditions des Arènes. Un grand merci à vous. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.